Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets divers et variés, sujets de société, d'église, de foi, parfois un peu de théologie, ce sera le cas la semaine prochaine d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par évoquer la COP26, alias l'édition 2021 de la conférence sur les changements climatiques. Elle s'est tenue du 1er au 13 novembre dernier à Glasgow, en Écosse. On parle d'une décision finale en demi-teinte, imparfaite, même s'il répond au mandat de la COP qui était de garder en vie l'objectif de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce moment ? Monseigneur,
Je dirais positivement, d'abord, c'est quand même un moment où le monde entier s'est quand même rassemblé, où il y a eu très peu d'absence, il y a eu quand même une forme de communion entre des gens de pays en développement, de pays riches, donc c'est déjà bien qu'on puisse mettre tout le monde ensemble. Après, je crois que c'est très difficile pour ceux qui possèdent, ceux qui ont une vie aisée, de baisser leur niveau de vie, baisser l'usage qu'ils font des biens et de l'énergie particulièrement. Nous-mêmes, c'est pas facile de se dire on va se priver de quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, je peux prendre la voiture pour faire un déplacement, c'est facile, ça sera assez rapide. Et puis je peux aussi prendre un train, mais il faut aller à la gare, attendre le train, prendre le train, etc. Voilà, et donc économiser, puis on se dit, c'est quoi 5 litres de carburant par rapport à, je sais pas quoi, ce que consommera un bateau gigantesque, donc ça sert à rien. En fait, si, ça sert, je crois, mais c'est difficile. Alors, au niveau des pays, j'imagine que c'est aussi difficile de décider que notre pays va consommer moins, va être plus propre, et surtout, si on est riche, c'est le cas de la France, on va financer le développement écologique de pays pauvres. Parce que ces pays pauvres ne savent pas le faire, faute de technique et d'argent, et surtout, ils ont les dégâts collatéraux de nos excès. Par exemple, j'ai vu dans le journal que si la température gagnait 2 à 2,5 degrés, quasiment tous les récifs coralliens seraient perdus. Donc, c'est pas nous qui avons des récifs coralliens, sauf en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a des pays qui en vivent. Ils vivent de la pêche, par exemple, dans ces récifs. Donc, plus de récifs, plus de pêche. Donc, c'est vraiment un enjeu international où il faut une vraie solidarité. Est-ce qu'on est prêt à aider à payer pour les pauvres ?
Et puis, il y a les pays qui sont en plein boom, hein, comme l'Inde, notamment, ou la Chine, qui se disent, attendez, nous, on veut notre part du gâteau. Vous avez prospéré pendant des siècles, pour certains, et c'est pas facile de faire un
message. Oui, puisque les classes moyennes, par exemple, chinoises ou indiennes, qui maintenant sont relativement aisées financièrement, elles veulent voyager, prendre l'avion. Là, j'ai vu qu'il y a des commandes d'Airbus pour des centaines d'avions nouveaux. Bon, ça, c'est avions, on espère arriver à des avions zéro CO2 bientôt, mais en attendant... Tout ça consomme, ça brûle de l'oxygène, ça produit du CO2. Enfin, oui, ils ont droit aussi à leur part, mais il faut que tout le monde ensemble fasse cet effort. Et c'est énorme comme effort, et je crois qu'on a du mal à y arriver.
Ouais. On a le sentiment que les États sont un peu pris au piège, finalement, de l'économie mondialisée qui ne jure que par la croissance. Est-ce que le moment n'est pas venu d'imaginer une autre manière d'envisager les échanges économiques internationaux? Est-ce que ça, c'est...
Oui, certains parlent d'un gouvernement mondial qui pourrait gérer tout ça, mais quel gouvernement et quel pouvoir il aura de coercition ? Alors c'est une tyrannie monstrueuse qui fait que tout le monde obéit au garde-à-vous. Mais c'est sûrement pas le souhait des gens. Enfin, on tient à cette démocratie, à notre liberté aussi. Il faut beaucoup éduquer, je pense. Il faut beaucoup éduquer parce que ça partira aussi de la génération suivante qui peut-être dans les écoles aura appris... des principes de base de l'écologie, de la consommation juste, du non-gaspillage, du recyclage, de vivre peut-être moins dans ce besoin d'acheter, de suracheter, ce qui n'est... Là, on arrive à Noël, par exemple. Hein, j'ai vu des magasins dans la campagne de Beauce, là, déjà plein de boîtes de chocolat, de tas de jouets, de tas de choses qui... de mon point de vue, servent un peu à la joie des gens, mais il y a une partie qui me semble vraiment excessive. On a besoin de tout ça pour être heureux.
Et puis on ne sait plus attendre, hein, parce que Noël, ce n'est pas tout de suite.
Noël, c'est pas eux, mais les magasins veulent dès maintenant faire de l'argent, et puis ils expliquent qu'il n'y aura peut-être pas tous les jouets qu'on veut, parce que la circulation, les transports sont compliqués, donc il faut que les gens achètent maintenant. Ça va faire du chiffre d'affaires tout de suite pour les magasins.
En tout cas, il y a un chiffre qui devrait nous alarmer. La pollution ferait chaque année environ 300 000 morts au sein de l'Union européenne. Donc.
Oui, alors ça, c'est des chiffres. Je ne sais pas comment on les calcule, parce qu'on meurt de quelque chose. C'est vrai que c'est des gens qui ont été vraiment empoisonnés par des mauvaises. Des gaz ou des poussières. Après ça, il y a tellement de facteurs qui interviennent dans la vie des gens. Je ne sais pas. Peut-être, mais en tout cas, assurément, on peut vivre mieux.
Oui. Samedi 20 novembre, de 9h à 17h30, à la maison diocésaine de la Visitation à Chartres, une journée pour prendre soin de votre couple. C'est vous qui invitez, Monseigneur.
Oui, c'est une journée de départ pour les jeunes couples, disons. On proposait plutôt entre 1 et 10 ans de vie de couple, de mariage, pour ceux qui sont mariés. En tout cas, c'est une belle journée. On va développer un thème qui est un peu compliqué, parce que je me rends compte que différence homme-femme, bien sûr, un homme et une femme sont différents, on le voit bien, mais les différences sont différemment marquées aujourd'hui qu'avant. La vie a tellement changé, il y a des lieux d'interdépendance et on change les rôles. Enfin, en tout cas, un homme peut être un père attentif à ses enfants, s'occupant beaucoup d'eux, ce que faisait plutôt la femme dans le passé. Il y a un goût d'indépendance, d'autonomie. Le travail des femmes le permet, tant mieux. Donc, les différences hommes-femmes sont peut-être plus complexes à appréhender. En tout cas, elles sont quand même là. Elles sont quand même là. Et donc, on voudrait en parler sous le mode de la richesse commune qu'en termes d'opposition. Même si, parfois, ces différences peuvent causer des oppositions dans un couple. Mais, encore une fois, si cette opposition est réfléchie, valorisée, au fond, on peut arriver à un plus grand bien. Donc, je le souhaite vraiment. Et ce sera une journée très de partage, de rencontre. Il y aura beaucoup de temps pour que les couples se trouvent ensemble. Les enfants seront pris en charge, ce qui fait que, effectivement, ils auront du temps pour se parler. Belle journée. En tout cas, ceux qui ne sont pas inscrits, qui voudraient les rejoindre, ils peuvent trouver sur le site du diocèse des informations pour cette journée.
Oui. Alors, l'homme occidental de ce début de troisième millénaire aurait tendance à être un peu, alors quand je dis l'homme, c'est l'être humain, hein, homme et femme, à être un peu narcissique, hein, à l'image d'une époque qui se préfère à toutes celles qui l'ont précédée. Or, pour vivre en couple harmonieusement, en tout cas, il faut être capable de se décentrer, de se mettre à l'écoute des désirs et des souffrances de l'autre. Finalement, c'est un peu ce que nous enseigne l'Évangile, non ?
Oui, se décentrer, servir l'autre, la joie de l'autre, le bonheur de l'autre. C'est vrai que l'homme contemporain est peut-être plus dans un esprit, un besoin d'immédiateté. On veut tout de suite. Amazon a fait son succès sur le fait qu'on est livré en 24 heures. Donc, la vie conjugale, la vie familiale oblige à patienter, oblige à laisser le temps de la croissance. C'est vrai pour les enfants qui doivent grandir. Mais c'est aussi vrai pour un chemin de couple qui va durer une vie. Tout n'est pas immédiat, tout n'est pas donné tout de suite. La patience dans un regard d'amour, dans la bienveillance, c'est une belle attitude, je pense.
Une journée pour prendre soin de votre couple, c'est donc samedi 20 novembre de 9h à 17h30 à la maison diocésaine de la Visitation à Chartres. Je voulais revenir à présent sur votre dernier message fraternel dans lequel vous évoquez la journée mondiale des pauvres initiée par le pape François. Alors en préambule, il y est question de la rencontre de Jésus et d'une femme souffrante qui oint ses pieds d'un parfum de luxe au grand scandale des gens qui assistent à la scène. C'est une scène intéressante de l'Évangile.
Oui, en fait Jésus était souvent chez des personnes, il fréquentait les gens. Et donc cette scène a lieu dans une maison de gens plutôt aisés, des pharisiens, et une femme vient. Ne dit rien et se met à oindre, à mettre du parfum sur les pieds de Jésus et à essuyer ensuite les pieds avec ses cheveux. Et on dit que ce parfum valait très cher. Donc il y a un peu un scandale qui se crée. D'abord, cette femme n'est pas fréquentable. Et à l'époque, les pharisiens ne supportaient pas qu'une personne impure les touche parce que ça les rendait à leur tour impurs. Donc impurs pour aller, par exemple, au culte. Et puis, cette femme a une réputation de mauvaise vie, donc c'est encore pire. Et Jésus leur dira, mais laissez-la faire, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Donc elle annonce au fond la mort prochaine de Jésus, ce qui se passera avec sa passion, sa mort, sa crucifixion. Et puis il conclura en disant, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Donc ils nous sont donnés, en fait, comme frères, comme sœurs, à accueillir et à valoriser, à soigner. Oui.
Jésus, dites-vous, toujours dans votre message fraternel, s'est abaissé en épousant la condition humaine lors de son séjour terrestre. Quel appauvrissement ! On peut pas
parler. C'est ça. Hein ? En fait, ça, c'est le grand mystère de Dieu. Dieu qui a voulu se faire proche de nous passe par son Verbe, sa parole qui prend chair en Marie. Donc Marie, on peut dire qu'elle est fécondée par la parole de Dieu. Elle enfante Jésus et donc lui, de condition divine, il est Verbe divin, eh bien, s'abaisse à prendre notre condition d'homme et en plus à partager une vie humaine très pauvre, parce que par exemple, ses parents, Joseph et Marie, apporteront au temple l'offrande du pauvre, des petites colombes qu'on va relâcher comme offrande pour Dieu. Ils n'apportent pas un gros bétail comme faisaient les gens riches. Jésus assume une vie en plus humaine de grande simplicité. Son père est charpentier, sa mère s'occupe des tâches du ménage. Donc il connaît la condition des gens simples et pauvres et il va avoir un ministère tourné vers les pauvres. Donc pour le coup, il est un peu ce maître. Et du coup, comme il habite nos cœurs, il habite avec nous, les pauvres d'aujourd'hui sont des gens en qui nous pouvons quelque part goûter au mystère du Christ qui se fait pauvre parmi nous et nous laisser enseigner à leur contact. Ils sont, comme dira saint Vincent de Paul, nos maîtres.
Oui, c'est les pauvres nous enseignent, ils sont nos maîtres. Mais ils nous enseignent quoi, en fait ?
Peut-être d'abord une façon de vivre simplement, peut-être la vérité des relations. Je pense que le pauvre, il n'a pas les moyens de jouer un jeu de riche, de faire semblant. Souvent, ils repèrent vite si on les aime vraiment, si on fait semblant. Et à leur contact, je pense qu'on est humanisé. En tout cas, mon expérience très limitée, mais d'avoir côtoyé quand même des gens de la rue, des SDF, de nombreuses années, ça m'a aidé au fond à peut-être moins d'orgueil, moins de prétention. C'est la prétention, elle n'est pas forcément négative au départ, mais par exemple, les gens aisés, les gens qui ont été éduqués dans des bonnes écoles, ils veulent toujours conseiller les autres. Par exemple, organiser des choses pour ces gens-là, il faut les aider. Le pauvre, il vous apprend que d'abord, il faut vivre. Et vivre, c'est une relation entre les personnes. Ils ne veulent pas de conseils, souvent. Ils veulent juste être considérés. Est-ce que j'existe pour toi ? Est-ce que tu as du temps pour moi ? Voilà ce que peut exprimer un pauvre par rapport à nous.
Merci beaucoup, Monseigneur. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter cette émission sur www.radiorentiel.fr. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos.
Il m'appelait jour de fête. On n'avait rien.
J'avais peur qu'elle se sauve. Sur les ponts de Paris.
chiant.